Jacinthe Varel est avec nous en studio pour commencer la semaine. Comment ça va?
Bonjour, ça va bien.
As-tu bien profité du soleil
ben
de la
oui,
fin de semaine?
Ben oui, le faux, hein? On se souhaite des fins de semaine comme ça, plusieurs fins de semaine encore.
Ça fait du bien. Hein?
Ah oui, oui, oui.
Ça fait du bien. On le souhaite. Et s'il y a de la pluie, on veut pas la formule qu'on a eue au mois de mai où tu avais le soleil mardi, mercredi, puis de la pluie la fin de semaine.
Exactement.
Là, on prendrait le contraire là, si jamais il faut avoir de la pluie comme ça. Jacinthe-Ève, on va commencer avec cette rencontre entre Mark Carney et Donald Trump ce matin en marge du G7 qui se déroule dans l'Ouest canadien. Est-ce que tu penses, es-tu confiante que ça pourrait peut-être se conclure avec une entente économique entre les deux pays? Ou...
Oui, l'expérience nous démontre déjà que Mark Carney et Donald Trump s'entendent plutôt bien. Il y a plutôt un respect mutuel, puis il y a réellement une volonté de trouver des terrains d'entente, des accords. La communication est déjà ouverte aussi en parallèle, donc il y a de la diplomatie qui se fait en parallèle. Il y a déjà des discussions de couloirs qui se font. Le canal de communication entre Donald Trump et Mark Carney est ouvert. Donc, ça, c'est de bon augure. Ce n'est pas une première conversation non plus qui aura lieu ce matin à 11h en Alberta. Donc, c'est vraiment... Ce sera probablement l'officialisation et la conclusion de plusieurs discussions qui ont eu lieu entre les deux hommes politiques. Alors, moi, je suis assez confiante qu'on va en arriver à quelque chose. Mais par contre, est-ce que ça va être quelque chose de pleinement satisfaisant où tout le monde acclamera à l'unanimité Mark Carney puis sa décision, bien là, c'est à quel prix? À quel prix on va réussir à négocier nos tarifs, une baisse de nos tarifs, si ce n'est pas une baisse de nos tarifs, carrément des tarifs américains, carrément l'annulation des tarifs, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on va céder en échange? Il y a un article dans The Economist qui mentionnait là, que les discussions portaient notamment sur... Un droit de refus qu'on céderait aux États-Unis pour céder nos terres rares, par exemple, ou nos minéraux critiques au Canada. Donc, les États-Unis auraient mainmise ou auraient le premier droit d'exploitation de nos ressources naturelles. Si c'est à ce prix-là, on va mesurer le prix sur des décennies. Et je ne suis pas certaine que le Canadien moyen va vraiment nécessairement s'insurger contre ça, mais c'est une conséquence qu'on va peut-être mesurer plus sur le long terme.
Donc, tu as pas mal répondu à la question que j'allais te relancer en te demandant si jamais il y a entente, si Mark Carney réalise cet exploit-là, c'est pas nécessairement un coup de circuit, là.
Absolument pas. Non, ça peut se faire à des coups
faramineux. Mais c'est terrible ce que tu viens de dire, là.
C'est terrible.
Je comprends que là, on pourra pas le mesurer, mais si c'est ça qu'on donne aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens.
Oui, c'est terrible. Ce qui arrive souvent, c'est que ce sont souvent des entreprises étrangères. J'en parle souvent dans mes chroniques, je glisse toujours ça, que notre économie tient principalement sur des intérêts étrangers qui constituent nos colonnes vertébrales économiques dans plusieurs secteurs. Donc, le secteur de l'exploitation de nos ressources naturelles, l'exploitation de nos minéraux critiques, c'est souvent aussi détenu par des intérêts étrangers. Là, est-ce qu'on a intérêt à ce que ce soit d'abord les Américains qui ont le premier droit de refus, premier droit de regard, premier droit d'exploitation? C'est énorme. En même temps, c'est pas comme si on a une économie très forte au Canada puis on se dit « Hey, c'est plein d'entreprises canadiennes et québécoises qui pourraient le faire. » Malheureusement, on est plutôt faible en économie, mais c'est pas comme ça non plus qu'on va se renforcer notre économie. Alors, de céder ça à un pays voisin, c'est très, très, très gros. C'est très, très, très questionnable. Et j'ai hâte de lire davantage là-dessus là, quand il y aura des spécialistes du secteur minier qui vont se prononcer là-dessus. Mais franchement, c'est vrai que c'est très gros. Alors, il faudrait mesurer aussi, est-ce que les tarifs sont un moindre mal? Hein? Ouais. Parce que là, tu sais, dans l'opinion publique, si on se défait des tarifs, peu importe le coût, ça va être un gain. Ça va être un gain politique. Mais est-ce que ça va être un gain économique? Ça, c'est une autre histoire.
Parce que si tel est le cas, on va complètement à l'encontre du fait de bâtir une économie forte au Canada si jamais on prend cette décision-là. Ouais. Je ne me trompe pas en pensant
absolument.
À ça.
Non, absolument. C'est majeur de toute façon, surtout quand on se projette dans le futur, puis c'est ce qu'il faut faire quand on pense à se construire une économie plus forte. Il faut regarder quels seront les secteurs d'avenir. Et dans les secteurs d'avenir, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a les minéraux critiques, absolument.
Et du côté de la population, ça peut passer comme, je vais le dire comme ça, là, ça peut passer comme n'importe quoi, que le monde va dire, c'est pas grave, c'est déjà exploité par les étrangers. Fait que là, on va dire Mark Carney, notre nouveau sauveur. Ça se pourrait-tu que ça soit pas les oppositions, finalement, qui poussent ce gouvernement minoritaire-là au vote, mais que ce soit le Parti libéral lui-même qui, rendu à l'automne, a présenté son budget, dise, hey, regardez, nous autres, on a sauvé tout ça avec les États-Unis, donnez-nous un mandat majoritaire, donnez-nous un mandat fort, et que ça soit eux qui repartent en élection?
Wow! Ça se peut. Ça se peut, absolument. Ça se peut. Est-ce que d'ici là, il va avoir eu une entente pour aller chercher des députés au NPD puis aller chercher une majorité sans partir en élection? Ça reste quand même le scénario le moins coûteux puis le moins risqué pour le Parti libéral du Canada. Il y a encore quelques mois pour aller chercher une majorité en essayant de convaincre des députés du NPD, par exemple, là, de traverser l'autre côté, du côté des libéraux, pour aller chercher un gouvernement majoritaire. Mais oui, il pourrait le faire, absolument. Ça va dépendre de comment est accueilli cet accord-là.
C'est ça.
Si on le voit comme quelque chose d'extrêmement bon pour le Canada, oui, tu as raison, mais je fais quand même confiance à la lucidité des gens. Je pense que oui, généralement, la population va dire « Ah ben on a fait un gain, on n'a plus de tarifs », mais j'ai quand même l'impression qu'on a des bons journalistes, on a des bons communicateurs au Canada, au Québec aussi. On va être capable d'expliquer aux gens la contre-mesure de ça, puis à quel point que ben t'as peut-être gagner la maison dans le divorce, mais t'as perdu la garde de tes enfants. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a de plus de valeur? Donc, c'est aussi ça, là, d'accorder une valeur à ce qui est négocié. Puis en ce moment, les tarifs, oui, ça fait mal, mais faut aussi voir qu'est-ce qu'on va donner en contre-mesure puis la valeur de ça.
Ouais, ça va être dans les détails puis pas nécessairement dans les grands titres qu'on va falloir lire et analyser un petit peu plus profondément, justement. Jacinthe-Ève, au niveau provincial, le Parti libéral a choisi son nouveau chef et c'est Pablo Rodriguez. T'en penses quoi?
Hey! Bien, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour tous les partis d'opposition. Pour le Parti québécois, pour la Coalition Avenir Québec, pour le Parti conservateur.
Ouais, c'est facile à attaquer.
Oui, absolument. Parce qu'il est quand même très, très, très... Il incarne le Parti libéral du Canada et la marque du multiculturalisme canadien, la marque de l'immigration. Là, on peut trouver le qualificatif qu'on veut, mais l'immigration sans compter, mettons, disons-le comme ça, pour être équilibré dans le qualificatif. Alors, c'est sûr que et la dette démesurée, la gestion désastreuse de notre économie canadienne. Alors, c'est sûr que ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait plusieurs angles d'attaque pour les autres partis. Ça reste aussi un candidat de Montréal qui incarne une politique multiculturelle, qui incarne la politique montréalaise. Si c'est pas la politique fédérale canadienne, il incarne minimalement la politique montréalaise.
Très Montréal. Ça fait pas région, puis ça fait pas capitale nationale.
Ben non, et le Parti libéral avait besoin d'aller chercher les régions, alors on n'a pas cherché le candidat, mais on a été allé chercher le candidat le plus connu. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même un aspect très positif, parce que là, je dépeins plein d'aspects négatifs, mais il y a l'aspect très positif de ça. Ici, au Québec, on est comme ça, on vote pour la binette.
Mais il y a un sondage...
C'est toute une binette!
Il y a un sondage qui disait même, il y a quelques semaines, un sondage léger dans le journal qui disait que avec Pablo Rodriguez, le Parti libéral du Québec passait en tête des intentions de vote au Québec, à peu près à égalité avec le Parti québécois, mais quand même...
Oui, parce qu'on vote pour la binette, on vote pour l'attitude, le comportement, ce que la personne... Oui, le look, mais aussi ce que la personne incarne, et pas tant sur le plan politique, mais sur le plan humain. Hein? Il a l'air gentil, c'est un homme qui est fort au niveau des communications, il est souriant, il a l'air sympathique, il est certainement sympathique aussi. On le voit, là, ça se fake pas non plus, là, être sympathique. Alors ça attire... la sympathie des gens. Et plutôt que de regarder les politiques qu'il incarne, les valeurs auxquelles il croit, les gens vont d'abord et avant tout voter pour la figure qu'il incarne. Et bien, c'est sûr qu'il incarne un bonhomme sympathique. Donc, on ne va pas nécessairement penser à tout ce qu'il pourrait faire comme dégâts au Québec sur le plan de l'économie. On ne va pas nécessairement penser aussi à notre déficit déjà qui est incontrôlé, qui est une partie de notre déficit qui est structurelle. Donc, ça prendrait quelqu'un qui est capable de mettre un coup de barre là-dedans. Mais quand tu as été 10 ans dans un gouvernement fédéral qui a été extrêmement dépensier puis qui a doublé la dette, les gens vont pas s'arrêter à ça. Ils vont dire « Ah, ben il est fin, il est gentil. Moi, j'ai peur de la séparation. » Et ça aussi, ça va être tout le défi de Pablo Rodriguez. Est-ce qu'il va incarner simplement la peur d'un référendum ou il va incarner quelque chose de plus? Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il a mené sa campagne au leadership basée là-dessus, sur la peur d'un référendum. À un moment donné, ça s'essouffle comme thème. Qu'est-ce que tu as proposé pour le Québec? Connais-tu ton Québec? Connais-tu ton Québec en dehors de l'île de Montréal? Connais-tu ton Québec en dehors de la Grande Couronne de Montréal, qui est complètement autre chose? Connais-tu des gens qui ont des skidous, des quatre roues, des motos, des autos, puis des bateaux,
des bateaux,
qui vont au chalet la la fin de semaine, puis pas dans le chalet, pas un chalet de luxe qui vaut 600 000 dans les Laurentides parce que tu connais que des Montréalais, mais connais-tu ton Québec au complet, en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay? Donc, ça va être son grand défi.
Tu parles d'auto? Ça m'amène au troisième lien. 70 % d'adhésion au projet et la CAQ semble s'être plantée quand même malgré ça avec son tracé de pont et tunnel.
Rendre un projet populaire impopulaire.
C'est ça. Ils font-tu exprès pour être mauvais? C'est quoi leur stratégie?
C'est sûr que ce dossier-là, même s'il est à 70 % appuyé par la population, elle n'est pas à 70 % le projet n'est pas appuyé à 70 % par les médias, par les commentateurs, par les micros qu'on a.
Par les autres politiciens aussi.
Par les autres politiciens non plus. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de présenter un projet comme ça en étant à contre-courant du système médiatique, du système politique, tous les autres partis politiques.
Un pont-tunnel qui passe à côté de Valero, dans le rock du Cap Diamant qui va sortir sur Pierre Bertrand. T'sais, j'aurais voulu faire de quoi faire rire de moi, j'aurais pas fait mieux.
Ouais, ouais. Puis en plus, elle l'a présenté seule. Ouais. On a l'impression que la CAQ la pousse un peu en dessous de l'autobus Geneviève Guilbeault. Elle est seule à incarner ce dossier-là. Est-ce qu'on est en train de préparer une course au leadership et s'assurer que Geneviève Guilbeault a aucune chance d'accéder à la tête de la Coalition Avenir Québec? Ça ressemble aussi à ça. Ça ressemble à un coup de l'interne où est-ce qu'on dit, tiens, porte ce dossier c'est là, va au front, t'es l'agneau sacrificiel, on te sacrifie, tu vas incarner tout ce que ça incarne, le troisième lien. En même temps, peut-être qu'elle, elle se dit, ben, c'est un pari que je suis prête à faire.
Ben, je l'ai
parce
demandé,
que, justement,
tu te sens comment si t'es dans les souliers de Geneviève Guilbeault, Jacinthe? Dans cette situation-là?
Ben, franchement, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Justement parce que j'ai l'impression que le parti ne la soutient pas assez là-dedans. J'ai l'impression qu'elle porte ce dossier-là à elle seule. Et j'ai l'impression que peut-être que si elle est optimiste, puis si elle est constructive, puis elle a foi en ses collègues ou elle a foi au système autour d'elle, peut-être qu'elle se dit « c'est un beau risque que je suis prête à prendre de porter ce dossier-là sur mes épaules. » Ça peut se retourner contre... en sa faveur, ouais, éventuellement. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un dossier qui n'est pas facile à porter. Puis elle est un peu seule, un peu beaucoup seule. Et ça, ben, ça a l'air encore plus fou parce que, justement, au-delà du tracé où il arrive tout ça, les imprécisions, moi, je n'en tiens pas du tout rigueur là-dessus parce que, franchement, moi, je suis beaucoup plus clémente là, à l'endroit du projet présenté parce que je me dis, de toute façon, il y a des études à faire, des études de sol, des tests de sol, des soumissions à faire. Et justement, quand on aura plus de précision sur les coûts, sur les difficultés du projet, sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Il manque tellement de détails, mais on peut bien dire, ben oui, mais le politique manque de détails, mais il reste que pour avoir plus de détails, il faudrait aller en étude de faisabilité, il faudrait aller en appel d'offres.
Ce qui aurait dû être fait normalement dans le premier mandat de la CAQ.
Oui, exactement. c'est sûr. Oui, mais il reste que, bon... Oui,
c'est moi, tu sais, je suis pro troisième lien. Oui. Mais c'est parce que c'est juste que de la façon que ce dossier-là est monté, j'aurais voulu rater un projet que j'aurais pas fait mieux.
Alors, pour répondre à ta question, Reg, si j'étais dans les souliers de Geneviève Guilbeault, je me poserais cette question-là. Est-ce que le parti essaie de saboter mon image? Est-ce que le parti essaie de saboter mon éventuelle candidature à la chefferie de la Coalition Avenir Québec? Parce qu'on sait que ça reste une candidate potentielle au poste de chef de la Coalition Avenir Québec. Et là, franchement, on a l'impression qu'elle s'embourbe dans un projet. Ben oui. Non, il manque vraiment de clarté et de précision, mais en même temps, elle a le vent d'en face avec les médias, avec les partis politiques. Alors, il va falloir qu'elle se trouve des alliés. Puis malheureusement, ben, normalement, c'est la job du maire de la ville de Québec. C'est la job du maire de la ville de Lévis. Là, on a le maire de la ville de Lévis qui croit à peu près plus au projet. Il croit à l'importance d'avoir ce projet-là, mais il croit plus aux porteurs du projet. Et on a Bruno Marchand qui s'est jamais très, très bien positionné là, en faveur de ce troisième lien-là. Donc, elle a vraiment pas d'alliés là-dedans. Et c'est souvent la faiblesse aussi de tout projet. Quand on n'a pas assez d'alliés, quand on n'a pas des alliés de taille, ben là... Pourtant... 70 % de la population de la région de Québec le veut. Ça, c'est un allié de taille.
Oui, mais la différence entre le maire Marchand et le maire Laulier, le maire Marchand, moi, je pense qu'il aurait dû se positionner en faveur de ce projet-là. Mais la différence, c'est que le maire Laulier est juste échaudé depuis 8 ans. Là, puis je le comprends tellement.
Ben oui, il s'est fait décevoir, il s'est fait trahir aussi, il s'est fait tasser. Parce qu'on tasse le maire de Lévis quand depuis 8 ans, on dit oh oui, le projet pour lequel on t'a dit qu'on s'engagerait, on s'engage pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. À un moment donné, il s'est fait trahir. Et, ces politiciens-là devraient se rappeler aussi qu'ils ont trahi d'abord et avant tout aussi les électeurs de l'agglomération de Chaudière-Appalaches et de Québec.
Il y a juste un certain nombre de fois que tu peux crier au loup, hein,
puis, ben oui.
Puis que ça fonctionne encore.
Ben oui.
Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varelle, qui, il faut le dire en plus, qui sera avec Max et moi la semaine prochaine.
Oui.
À compter de
oui.
lundi et ensuite pour...
Par la suite,
pour
nous, moi, Jacinthe et Mathias, cet été.
Oui.
Une chaude du matin.
Ben on va voir ça lundi prochain avec
ben
les
oui,
matins,
on va prendre des cafés de bonheur.
Ben oui. On va te préparer du bon café, tu vois. Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varelle, passe une belle semaine.
Bonne semaine.
Salut!